Voilà, on remercie les sœurs qui ont apporté ce beau bouquet. Voilà, merci beaucoup. J'ai l'impression d'être une fleur parmi les fleurs. Mais je ne suis pas un cactus. J'espère que je n'ai pas d'épines pour vous piquer ce matin. Quoique, quelquefois, la parole de Dieu, il est dit qu'elle est comme un marteau qui brise le roc. Et on a besoin d'être travaillé par la parole. Alors, je vous invite à ouvrir la parole, justement, dans Jacques 5, 15. J'ai proposé la semaine dernière un thème de la foi, le thème de la foi. La foi qui est agissante dans l'amour, dit Paul. Et on a parlé la semaine dernière. De quoi on a parlé la semaine dernière? Oh là là. De la foi. De la nourriture de la foi. La nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler de la prière de la foi. Quelquefois, ma femme me demande, mais sur quoi tu as prêché dimanche dernier? Et j'avoue que des fois, il faut que je me creuse la mémoire pour me rappeler, mais de quoi j'ai parlé dimanche dernier? Parce qu'on a besoin de se repasser constamment la parole sur notre cœur. Et c'est vrai qu'on oublie vite. On oublie vite et on a besoin de revenir sans arrêt. La prière de la foi dans Jacques chapitre 5, verset 15. C'est un verset que nous connaissons, qui servira de thème, de titre principal. Jacques écrit, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » La prière de la foi, c'est le seul endroit dans la parole de Dieu où on trouve cette expression, la prière de la foi. Et j'aime beaucoup cette expression, la prière de la foi, parce qu'on associe la prière avec la foi. C'est un peu comme deux pièces d'un puzzle. Ça vous est certainement arrivé de faire des puzzles. Ça remonte peut-être un peu loin en arrière. Mais quand on arrivait au bout des puzzles et qu'on a complété le puzzle, on était content. Sauf s'il manquait une pièce. Et là, c'est la catastrophe. Mais là, il n'y a que deux pièces. Ça va, ce n'est pas trop compliqué. Il y a deux pièces. Il y a la foi et il y a la prière. Et si on imbrique la foi et la prière ensemble, ça nous donne la prière de la foi. Cette prière-là est agissante. Cette prière-là est puissante parce qu'elle associe la foi dans la prière. Voyez, la foi nous pousse à prier pour les miracles et la prière requiert la foi pour que les miracles se produisent. Donc on ne peut pas ce matin dissocier la prière de la foi. Prier sans la foi, c'est comme vouloir avancer en voiture sans avoir enclenché la vitesse. Alors vous appuyez sur l'accélérateur, peut-être on pourrait faire un essai sur le parking tout à l'heure, si vous voulez bien prêter votre voiture. Vous appuyez sur l'accélérateur pendant un quart d'heure, si vous n'enclenchez pas la vitesse, ça va faire du bruit, la voiture n'avancera pas, mais le moteur, il va souffrir. Tant qu'on n'a pas enclenché la foi, on peut prier pendant des heures et des heures, nous n'avancerons pas. La prière de la foi, c'est comme enclencher la vitesse pour avancer. C'est comme ça qu'on va avancer dans les voies de Dieu. Regardez comment Jésus l'explique dans Matthieu 21, verset 18. Matthieu 21, verset 18. Jésus a parlé de la foi et il a parlé de la prière, même dans ce passage-là. C'est pourquoi je vais m'attarder sur les textes dans l'Écriture où on a ces deux notions qui sont juxtaposées. Matthieu 21, verset 18. Le lendemain matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim, il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais plus tu ne portes du fruit. Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, ses disciples furent étonnés et dirent, « comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec ? Jésus leur dit, « Alors je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Vous avez noté le dernier verset, « Avec foi, par la prière ». Et on rejoint Jacques qui nous parle de la prière de la foi. Donc, cette histoire du figuier maudit, elle est rapportée dans d'autres évangiles. Elle a fait couler beaucoup d'encre de la part des commentateurs parce qu'elle est intrigante, cette histoire d'un figuier. Pourquoi Jésus a maudit un figuier? Surtout que l'évangile Marc précise que ce n'était pas la saison des figues. Ce qui complique encore un petit peu l'interprétation de ce passage et nous laisse avec plein de questions. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le figuier? Le figuier produit un fruit précoce, avant même les feuilles, des petites figues vertes comestibles annonçant la récolte à venir. Sauf que lorsque Jésus s'approche du figuier, il n'y a pas l'annonce de la récolte à venir. Il n'y a pas les fruits annonçant les prémices, les fruits précurseurs, ceux qui vont annoncer la récolte à venir. Et on sait que le figuier aussi, c'est une image pour parler du peuple d'Israël, notamment dans Hosée. Eh bien, si Jésus n'a pas vu dans les figuiers les premiers fruits annonciateurs des fruits à venir, c'est-à-dire que Jésus va, en maudissant ce figuier, Jésus annonce symboliquement la malédiction qui va tomber sur le peuple d'Israël parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie annoncé qui vient. Il n'a pas vu donc dans son peuple les fruits, les premiers fruits annonçant la récolte. Et effectivement, quelques années après, en l'an 70, il y a eu la conquête de Jérusalem, la destruction du temple, la diaspora. Le peuple juif a été disséminé sur toute la surface de la terre. Il y a eu le jugement sur le figuier, mais sur Israël. Alors on peut l'interpréter dans ce sens-là, c'est une interprétation assez classique de ce passage, où quand Jésus maudit ce figuier, il voit plus loin qu'un simple arbre et il voit une dimension prophétique, c'est un acte prophétique, comme d'ailleurs les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient accompagner leurs prophéties de certains actes prophétiques, des fois ils se couchaient par terre, des fois ils jetaient en l'air certains éléments, etc. et ils annonçaient en même temps les prophéties. Alors, au-delà de cet aspect du figuier, j'aimerais nous qu'on s'intéresse particulièrement sur la foi associé à la prière, comme Jésus en parle dans ce contexte. Et il dit, si vous avez de la foi, alors quand je lis « si vous avez de la foi », il s'adresse à nous, les croyants, ça veut dire que c'est possible de ne pas en avoir. Si vous avez de la foi, c'est un conditionnel. On peut très bien ne pas avoir de la foi. Alors il dit, si vous avez de la foi, c'est nécessaire de la développer, d'en avoir. Il poursuit, si vous ne doutiez point dans votre cœur, ce qui signifie que c'est possible de douter, on peut prier et douter en même temps. Or, on voit que Jésus veut nous apprendre à prier avec foi, mais nous pouvons prier avec le doute. Si vous ne doutez pas, alors Jésus dit, non, ne doutez pas, retirez de votre cœur l'incrédulité. Et Jésus dit, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais voyez, le figuier, ça n'intéresse pas Jésus. Le figuier, c'est petit. Jésus nous fait regarder vers les montagnes. Il nous dit, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne vous obéirait. Parce que Jésus nous détourne notre regard du figuier pour nous amener dans des défis beaucoup plus grands. Déjà, pour nous, un figuier, c'est déjà extraordinaire parce que les disciples se disaient, mais comment est-ce possible que Jésus, avec une parole, a pu sécher un figuier. Parce que Jésus peut tout faire. Il a l'autorité sur la nature, sur la création, nous le savons. Mais il nous dit à nous que nous pouvons faire les choses qu'il a faites, parce que ce n'est pas nous qui les faisons, mais c'est Christ au travers de nous, tout simplement. Mais il nous dit, ne vous arrêtez pas au figuier, mais regardez plus loin. Il y a des montagnes. Et franchement, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'une montagne? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'une montagne? Est-ce qu'on peut trouver plus grand qu'une montagne? Je ne pense pas. Sur la terre, c'est les choses les plus imposantes, ce sont les montagnes. Il détourne nos regards, le Seigneur, des figuiers, c'est-à-dire de nos problèmes. On va dire de nos problèmes petits, pour nous montrer que les gros problèmes, il peut s'en occuper et nous délivrer de ces difficultés-là. Alors il nous dit, voyez ce figuier, même si nous arrivons à avancer et que nous voyons des choses, il y a des choses plus grandes qui viennent derrière et nous devons nous attendre à Dieu de la même manière que nous s'attendons pour le figuier. Nous allons nous attendre à Dieu pour les montagnes. Mais les montagnes, c'est plus grand. Les montagnes, c'est plus puissant qu'un figuier. C'est énorme, une montagne. Vous ne pouvez rien faire devant une montagne. Donc, Jésus veut nous entraîner sur le terrain de la foi. Il nous explique ceci. Quand on entre sur le terrain de la foi, on entre sur le terrain du miracle et tout est possible à celui qui croit maintenant. Que ce soit le figuier, que ce soit la montagne. Évidemment, pour nous, on se dira, il nous faut plus de foi, il nous faut plus de ceci, de cela pour la montagne. Mais en réalité, il nous faut d'abord entrer sur le terrain de la foi, puisque c'est là que tout va se jouer et c'est Christ qui va agir. Alors, la montagne représente les obstacles insurmontables et la foi, c'est l'élément clé qui nous permet de rentrer dans cette dimension surnaturelle. J'ai remarqué comment Jésus nous indique la procédure. Quand on est devant la montagne, il nous donne une indication, il nous dit de parler à la montagne. Il ne nous demande pas de crier, il ne nous demande pas d'hurler, il nous demande de parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos mots ou l'intensité sonore que nous pouvons dégager, mais c'est par l'autorité spirituelle que Christ a placée dans nos cœurs, par la foi. La parole a une autorité, la parole est puissante. Elle n'est pas puissante parce qu'on va parler fort. Elle est puissante parce qu'elle est marquée par l'autorité de Christ. Si on n'a pas compris ça, on peut crier pendant des jours et des heures, on peut crier. Mais l'important, c'est l'autorité qui accompagne. Parce que crier, ce n'est pas le sens de ce passage. Il nous demande de parler. Parler avec autorité, c'est ce que Christ nous demande pour que le miracle se produise. Alors, bien sûr, parfois, nous serons amenés à élever la voix, peut-être plus fort, à crier peut-être. Mais nous devons toujours réaliser que ce n'est pas dans cette force-là qu'est la puissance. C'est dans la puissance de la foi. Et même un simple mot, avec foi, hein, c'est ce centenier qui a dit, « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Mais Jésus n'a pas crié, il a dit un mot. Et la chose s'est accomplie par la parole. Nous qui avons des enfants, si nous sommes parents, nous avons des enfants. Quand nos enfants, ils viennent nous demander quelque chose, ils ne vont pas se mettre à crier devant nous. Ils vont nous le demander normalement, j'allais dire. Ils vont nous parler normalement. Ils ne vont pas dire, « Oh papa, j'ai besoin d'un iPod, un iPad, un iPhone. » Tout de suite. Ils ne vont pas parler comme ça. « S'il te plaît papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. » Ils vont nous parler normalement. Quand on vient devant Dieu, on n'est pas obligé de crier. On parle. C'est la parole qui est agissante. Dans la foi. Et nous le faisons entre nous naturellement. Mais Dieu, c'est un père. Des fois, on a l'impression que Dieu est sourd. Il n'entend pas nos prières. Mais il entend nos prières. Il entend les prières de notre cœur. Il entend toutes choses. Donc, nous pouvons lui parler tout simplement avec foi. Et il ne s'agit pas de développer des volumes sonores, des décibels, mais surtout de le faire avec l'assurance qu'il entend et qu'il va répondre. Ça, c'est la foi, la prière de la foi. Alors, bien sûr, dans l'émotion, on peut élever la voix, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais simplement, il nous faut comprendre que la puissance n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est dans la foi et dans l'autorité que Christ nous donne. Au verset 22, il y a ici l'explication pour associer la prière et la foi. Tout ce que vous demanderez, non pas quelquefois ou quand vous y pensez, mais quand on prie, il nous faut associer la foi. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est Jésus qui nous indique. Et combien souvent nous prions sans la foi, ou nous prions en doutant, ou nous ne croyons pas que Dieu va pouvoir le faire, et nous prions avec si peu de foi que nous sommes presque certains que Dieu ne pourra pas nous exaucer. Et pourtant, des chrétiens qui nous ont précédés avaient un peu la même démarche. C'est une démarche qui est attachée au cœur de l'homme. Et heureusement que Dieu va au-delà de cela, parce que c'est notre faiblesse, c'est nos difficultés. Nous doutons, nous avons peu de foi. Regardez Pierre, il était capable d'avoir la foi pour marcher sur l'eau. Et peu de temps après, il était rempli de doutes et il commence à s'effondrer. C'est le même Pierre, c'est le même homme qui passe par la foi, par le doute. La foi et le doute, souvent, ne sont pas très loin l'un de l'autre. Quelqu'un qui a la foi peut basculer dans le doute, quelqu'un qui doute peut avoir la foi, et on passe de l'un à l'autre. Pierre a connu cela. Je pense à l'église qui était réunie, qui priait pour Pierre. Dans Actes 12, la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser à Dieu pour Pierre, il était en prison, des prières ferventes. Ils priaient de tout leur cœur. « Seigneur, délivre Pierre, Pierre allait comparaître le lendemain, c'est-à-dire il allait être condamné à mort. » Et effectivement, ils priaient de tout leur cœur. Ils priaient longtemps, ils ont prié des heures et des heures, pour que Dieu délivre Pierre de la prison. Et lorsque Pierre a effectivement été délivré de la prison, qu'un ange est venu le secourir, dans Actes 12, on voit qu'il s'est rappelé que dans la maison, dans cette maison-là, il y avait des gens qui se réunissaient pour prier. Donc il est allé à cette maison et il a tapé à la porte. Sauf que quand les gens qui étaient dans la prière, qui priaient pour Pierre, délivre-le de la prison. Mais jamais ils auraient pensé que Pierre, il soit à la porte là. Jamais. C'est pourquoi la première pensée qu'ils ont eue, c'est que c'était des gens qui venaient les arrêter. Ils ont eu peur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait courageusement, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait courageusement? Ils ont envoyé une servante. On est tous un peu pareils. On envoie sur le front les servantes. La servante va ouvrir la porte et elle tremblait. Et Pierre, derrière la porte, elle lui dit « C'est moi, c'est Pierre !» Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle va l'annoncer aux disciples. Deux réactions qui nous montrent l'incrédulité. Première parole, on trouve ces paroles. Malheureusement, dans l'Église, c'est la réunion de prière. Ils disent à cette servante « Tu es folle !» Ce n'est pas possible. Or, que dans le même temps, ils sont en train de prier pour que Pierre soit délivré de la prison. Et en même temps, ils disent « Tu es folle, ce n'est pas possible. » C'est ça la prière du doute. La prière du doute. On prie et on ne croit pas que c'est possible que Dieu le fasse. Et comme elle insiste, parce que c'était la vérité, elle a entendu Pierre, elle ne va pas mentir, elle dit « Si, si, c'est Pierre. » Ils disent « Ce n'est pas possible que ça soit Pierre, donc ça doit être son ange. » Et ils arrivent encore à une autre interprétation, et qui n'est pas vraie encore, pour vous montrer combien le doute peut nous pousser dans... dans des chemins d'errance. Ils sont perdus, alors que c'était vraiment Pierre, et quand ils ont ouvert la porte, ils se sont réjouis. Mes frères et sœurs, nous ressemblons à cette église-là. Parfois, nous prions, mais sans vraiment croire que Dieu puisse exaucer notre prière. Alors que tout dans l'Écriture, la prière de la foi, Jésus dit ici, demander avec foi par la prière, c'est vrai que Dieu nous fait grâce parce que des fois nous ne sommes pas comme Dieu veut. Mais là, nous avons le plan. Alors, regardons le verset parallèle dans Marc 11. Il y a une petite nuance. Marc 11, 20, pour vous montrer ceci. Marc, chapitre 11, verset 20. Chaque évangile apporte un éclairage différent sur les événements, notamment ce figuier-là. Et... on va remarquer comment Jésus s'exprime dans Marc chapitre 11 et au verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier, il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est desséché. » Jésus dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Les termes sont différents. Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». Littéralement, c'est « Ayez la foi de Dieu ». On s'est beaucoup interrogé sur cette expression assez unique aussi, là encore, dans l'Écriture. C'est le seul endroit où il est question de la foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi dont Dieu est l'objet, mais la foi que Dieu opère lui-même dans le cœur. La foi qui est spirituelle. La foi qui vient d'en haut. C'est-à-dire, on dissocie la croyance humaine de la foi. La croyance humaine, c'est des gens qui disent, ils croient qu'il y a quelque chose après la mort. Ils croient que peut-être Dieu existe quelque part, mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est une opération spirituelle qui nous fait passer de la croyance religieuse qui est commune à tous les êtres humains, à la foi véritable qui sauve, la foi en Christ, la foi en Jésus, en Dieu qui agit, c'est différent. Donc, la foi de Dieu, la version parole vivante, et appuyez-vous sur la fidélité de Dieu, ayez une foi qui se repose sur Dieu, les différentes versions. Je remarque que Dieu, ici Jésus nous donne un impératif. Ayez la foi de Dieu, ça veut dire vous devez l'avoir, vous devez croire. C'est un petit peu comme quand on est au service militaire, quand le sergent nous donne un ordre, ou l'adjudant, il nous donne un ordre, nous devons obéir. Eh bien, Jésus nous demande la même chose, obéissez, croyez. Même si tout vous montre le contraire. Sauf qu'on n'est pas habitué à obéir dans le sens spirituel. C'est-à-dire, on est habitué à obéir quand on nous dit, par exemple, prenez cette chaise, mettez-la là-bas, ça on sait parce qu'on prend la chaise, on la met là-bas, c'est matériel, c'est concret, ça on le fait facilement. Mais quand on nous dit, ayez la foi, par exemple, comment on fait pour avoir? Alors, c'est, comme c'est spirituel, ça s'apprend. Mais ça s'apprend de Dieu. Ça s'apprend dans la communion avec Dieu. Parce que jamais personne ne nous a appris les choses de Dieu quand on était loin du Seigneur. On a appris à l'école à écrire, on a appris à compter, on a appris mathématiques, philosophie, toutes ces choses. Mais on n'a jamais appris comment obéir à Dieu et comment mettre en pratique les choses de Dieu. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est dans la vie chrétienne. C'est-à-dire par la foi, nous allons obéir à ce que Dieu demande. La foi, c'est plus que croire l'existence de Dieu. La foi, c'est savoir en qui nous mettons notre confiance. Croyez, c'est un impératif parce qu'on peut prier des heures sans croire et ça ne produit pas. Alors, j'aime bien cette expression, voyez au verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah, j'aime bien cette expression. Tout ce que vous demanderez en priant, vous le demandez maintenant. Mais vous croyez que vous l'avez déjà reçu. Mais vous l'avez reçu, c'est au passé. Vous demandez pour quelque chose à venir, mais vous croyez en même temps dans votre cœur que vous l'avez déjà reçu. Au passé, c'est un passé composé. Ça veut dire que pour Dieu, le temps n'est pas le même que pour nous. Nous pouvons croire que nous avons déjà reçu quelque chose que nous n'avons pas encore. Ça, c'est la foi de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dépendant du temps et des circonstances. Qu'est-ce que c'est que le temps pour Dieu? Pour Dieu, le passé est présent, le présent est futur, le futur est passé, le présent est passé, le passé est futur. Pour Dieu, c'est la même chose. Et quand il nous dit « ce que vous avez prié, croyez que vous l'avez déjà reçu », ça veut dire qu'on entre dans le temps de Dieu. On n'est plus dans le présent seulement, on est dans le passé, présent, futur de Dieu. On est dans le temps de Dieu qui rend présent des choses qui ne sont pas encore. Elles sont présentes dans notre cœur et pourtant elles ne sont pas encore manifester. Mais c'est le temps de Dieu, ça. En Dieu, nous l'avons. Alors Jésus nous l'explique. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Pour Dieu, le passé est présent, le présent est futur, le futur est passé, le présent est passé, le passé est futur. Ça va, vous avez suivi? Vous pouvez répéter? La semaine prochaine, je vous interroge sur ça. Vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. J'aime bien parce que là, on a la promesse de l'exaucement qui est associée. Vous recevez, vous croyez, vous ne l'avez pas encore. Vous avez dans le même passage le présent, le passé composé, le futur. Vous le verrez. Voyez qu'on est dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Vous le verrez, mais Jésus ne dit pas quand vous le verrez. C'est-à-dire que nous, quand on a prié, « Seigneur, j'ai reçu cette facture », ça c'est le présent, « j'ai reçu cette facture », j'ai besoin de 500 euros. Je sais que tu pourvois tout, Seigneur. Amen. Pourvois pour 500 euros. Amen. J'ouvre les yeux et je m'attends à voir un billet de 500 euros qui arrive. Hein, c'est un peu comme ça. Amen. Mais Jésus dit, vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit quand vous aurez dit Amen. Il a dit, vous le verrez. Ça, c'est futur. Mais les trois questions qui nous préoccupent, c'est Seigneur, c'est quand, c'est où et c'est comment que tu vas faire. C'est justement les trois questions auxquelles Jésus ne répond pas dans ce passage. Il nous dit, vous le verrez. Il ne nous dit pas quand, il ne nous dit pas comment, il ne nous dit pas où ça va se faire. Il nous dit juste, vous le verrez. Mais c'est ça la foi. C'est croire que la chose arrive. Elle va arriver. Mais pourquoi elle va arriver? Parce que nous l'avons déjà reçue au passé composé. Le futur n'est pas loin du passé. Le futur, le passé, le présent se rejoignent en Christ. Nous l'avons, nous le verrons. Alors quand on prie Dieu, la fin, vous voyez, il n'est pas dans l'autre récit. La fin nous dit, si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, pardonne-le. Et ça, c'est très important parce que quand on prie avec l'amertume, avec du ressentiment, mais Dieu n'écoute pas, il ne pardonnera pas nos fautes, il dit. Il ne pardonnera pas, il n'exaucera pas. Mais Dieu, ce n'est pas une machine qu'on met un euro et qu'on a ce qu'on veut. Dieu, il est Dieu et il regarde nos cœurs et il ne veut pas que nous prions n'importe comment. Je termine avec un verset qui, dans 1 Jean, chapitre 5, qui associe à nouveau la foi et la prière. 1 Jean chapitre 5 et le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Nous la possédons déjà. Une assurance parce que la foi est une ferme assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. La foi n'est pas une impression, n'est pas une croyance, je l'ai dit tout à l'heure. On dissocie la croyance. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, ils ont une croyance. Ils parleront de Dieu, ils parleront d'Allah, ils parleront de leur croyance. Ce n'est pas la foi, c'est une croyance. Mais quand on passe dans le domaine de la foi, on a des certitudes. Une certitude parce que la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. C'est une assurance parce que ça vient de Dieu, c'est en nous, c'est implanté par Dieu dans notre cœur. On n'est pas en train de se demander si Dieu existe, il n'existe pas, on l'a reçu par la foi. Maintenant, il nous faut comprendre que toutes les demandes que nous faisons ne sont pas toujours inspirées. Jean plutôt dit ici, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Mais quelle est la proportion qui est selon la volonté de Dieu dans nos prières et la proportion qui n'est pas selon la volonté de Dieu? Alors, si on prie constamment mais qu'on n'est pas selon la volonté de Dieu, on va prier même avec foi, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, comment voulez-vous que Dieu exauce des prières qui ne sont pas selon sa volonté, ça nous perdrait nous-mêmes, ça nous éloignerait de lui. Donc il nous dit d'abord, nous devons apprendre à prier, plutôt que de demander à tort et à travers. Jacques explique, vous priez, mais vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc nous devons apprendre à demander bien. C'est Jacques 4, 3. Dans le but de satisfaire vos passions. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Fais ceci pour moi, etc. Nous prions, bien sûr, selon nos besoins, mais nous devons apprendre à prier selon la volonté de Dieu. C'est tout un apprentissage, encore comme on a parlé de la foi tout à l'heure. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? En nous imprégnant de la parole, en nous nourrissant de la parole. C'est le message de la semaine dernière. Que faire une fois qu'on connaît la volonté de Dieu? C'est l'obéissance. Il y a une différence entre connaître la volonté de Dieu et obéir à Dieu. La différence, on la voit avec Jonas. Jonas connaît parfaitement la volonté de Dieu. Tu vas à Ninive porter la parole, c'est la volonté de Dieu. Il la connaît et pourtant il désobéit à la volonté de Dieu en allant sur un navire à Tarsis, à l'opposé. Donc on peut très bien connaître la volonté de Dieu et ne pas la faire. C'est exactement ce qu'il dit ici. Vous demandez quelque chose, mais ça doit être conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous devons obéir à ce que Dieu nous demande d'abord. Et puis, on connaît cette histoire de Jonas, où il a été ramené finalement à la volonté de Dieu initiale, et il a fait ce que Dieu voulait. Mais ça lui a coûté très cher. Ça lui a coûté beaucoup de déboires, beaucoup de souffrances. Et finalement, il a obtempéré. Alors, nous devons, nous, apprendre à obéir. Parce que la volonté de Dieu a toujours un coût. La volonté de Dieu, ça signifie renoncer à notre volonté et accepter qu'il bouscule nos plans. Alors, nous avons ensuite ce texte qui nous dit que Dieu nous écoute. Mais si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute, ça veut dire que Dieu n'écoute pas toutes les prières. Dieu écoute les prières qui sont selon sa volonté. Il y a beaucoup de paroles qui ne montent pas jusqu'à Dieu parce qu'elles ne concernent pas les choses de Dieu. Elles sont des prières charnelles, elles sont des prières pour des besoins des passions, comme dit Jacques, satisfaire des besoins, ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande. Et donc, nous perdons du temps à prier comme cela. C'est pour ça qu'il faut vraiment chercher qu'est-ce que Dieu veut exactement dans la prière. Dieu nous écoute un petit peu comme un père écoute ses enfants. Et quand on est parent, on aime bien quand nos enfants viennent nous dire, papa, je t'aime, surtout que après, peu de temps après, l'enfant nous dit « Bon, en fait, j'ai eu un 8 sur 20 en histoire géo. » Bon, c'est pas grave. Alors, quand ils viennent nous dire « Papa, je t'aime », quand ils viennent vers nous, on aime beaucoup ces paroles-là. Ça nous fait du bien. On aime écouter. Mais Dieu aime de la même manière nos prières. Mais nous ne devons pas prier n'importe comment non plus. Nous devons prier selon sa volonté. Et il aime cela. Alors, il nous écoute, là, ces prières qui sont selon sa volonté. Et le verset clé, c'est le verset 15, « Si nous savons qu'il nous écoute, » alors j'ai noté dans la parole vivante, « Si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. » La foi rend maintenant accessible ce qui est inaccessible, par la foi. Elle rend spirituellement présent la bénédiction future. Vous vous rappelez tout à l'heure, comme on l'a expliqué. Pour Dieu, le passé est présent, le présent est futur, le futur est passé, le présent est passé, le passé est futur. Alors, pour nous, ça nous échappe, mais pour Dieu, c'est comme ça. La foi rend présent ce qui est futur. Donc, nous le recevons. Par la foi, je m'approprie déjà la chose demandée. Si vous voulez une image, je peux dire je l'ai déjà spirituellement sans l'avoir encore matériellement. Mais je l'ai déjà dans mon cœur. Et ça, on le voit partout dans l'Écriture. Quand par exemple, Dieu parle à Abraham, Dieu a donné deux choses à Abraham. Il lui donne dans le présent. Il lui donne une patrie, une terre immense, terre de Canaan. Et il lui donne une descendance. Abraham ne les a pas physiquement. Il ne les a pas, j'allais dire, matériellement, si on peut s'exprimer comme ça. Mais il les a spirituellement dans son cœur, au moment où Dieu lui donne. au moment où Dieu lui fait la promesse, il les reçoit par la foi. Sauf que quand il arrive en Canaan, il regarde Canaan que Dieu lui a donné, mais Canaan s'est rempli de Cananéens. Donc il doit s'approprier ce que Dieu lui a donné. Il doit encore concrétiser ce que Dieu a mis dans son cœur. Pareil pour la descendance, les années passent, il n'a pas d'enfant, il va falloir que Isaac arrive. Ça va se concrétiser. Mais tout cela, il les a déjà dans son cœur. Il va les voir s'accomplir. Ça sera dans un deuxième temps. Deux exemples simples pour terminer, pour vous montrer que c'est important d'associer la foi et la prière. Le premier exemple, c'est dans l'Écriture, c'est la foi de cette femme à la perte de sang qui était malade depuis 12 ans, sans que les médecins aient pu apporter la moindre amélioration à sa situation. Elle n'avait plus d'argent pour payer. Elle dit, elle place sa foi en Jésus. « Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. » La foi agissante. La foi qui se concrétise par un acte. Je vais aller vers Jésus, je vais toucher le bord de son vêtement. Donc elle croit dans son cœur. Elle n'en a parlé à personne. C'est entre elle et Dieu. Mais Dieu entend cette prière-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est sincère, parce qu'elle est faite avec foi, parce qu'elle fait un acte de foi. Sa foi se matérialise en quelque sorte par cet acte. Elle surmonte les obstacles, il y avait la foule, elle aurait pu rentrer chez elle parce que c'était difficile, Jésus était inaccessible, il fallait se frayer un chemin. Elle est persévérante, la foi est persévérante. Elle va arriver à toucher le vêtement du Seigneur qui aussitôt ressent qu'une force est sortie de lui, qui dit « Qui m'a touché ?» La foi agissante. Jésus discerne, elle avoue, c'est moi qui ai touché. Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. La prière de la foi. Cette femme a associé la foi à la prière. Elle a fait une démarche. Ce n'est pas le vêtement qui a guéri cette femme. Ce n'est pas l'acte de foi qui a guéri cette femme. C'est la puissance de Christ. Mais il y a tous les éléments qui sont là. Il y a sa foi, il y a sa démarche et il y a Jésus qui produit le miracle. La foi n'est jamais superstitieuse. La foi n'est pas attachée à des reliques. J'ai vu il y a quelque temps le grand titre d'un journal, on a volé le sang du pape Jean-Paul II. On a volé le sang, une fiole du sang du pape Jean-Paul II. Ah, c'était un drame dans cette église. Dans une église en Italie, alors ils en faisaient tout un plat dans un journal, on a volé le sang. Il y a des gens qui vont voler des reliques. Ils vont voler des reliques parce qu'ils s'attachent à ces objets pour croire que Dieu va les bénir davantage. Mais Dieu n'est pas attaché à ce sang. Cette relique, elle ne compte rien, elle ne compte en rien pour Dieu. Donc la foi n'est pas attachée sur des objets, hein, comme le fameux saint-suaire, qu'est-ce qu'on a parlé sur le saint-suaire, le soi-disant linge qui aurait recouvert le Christ, donc tout ça ce sont des choses imaginaires, mais tout cela on n'en a pas besoin pour notre foi, on n'a pas besoin de ces choses-là. Nous on croit comme cette femme. Et le deuxième exemple, c'est ces deux aveugles qui étaient à Jéricho. Ils reconnaissent bien que Jésus est le Messie, fils de Dieu, aie pitié de nous. Ils sont aveugles, les médecins ne peuvent rien pour eux. Jésus leur pose une seule question. Il leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Mais cette question est intéressante parce que Jésus veut qu'ils associent la foi à leur demande. Ouvre nos yeux, guéris nos yeux aveugles. Jésus dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Il veut susciter la foi dans leur cœur pour qu'ils associent la foi à la prière. On a dit dans Jacques, la prière de la foi sauvera le malade. On retrouve les mêmes éléments. Ils répondirent, oui Seigneur. Et Jésus répond, qu'il vous en soit fait selon votre foi. La foi est impliquée ici dans leur guérison. Ce n'est pas toujours la manière de faire de Jésus parce que quelquefois la foi n'est pas nécessairement impliquée du malade. Mais ici c'est le cas. On voit que Jésus agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et qu'il nous donne des conseils, il nous donne des exemples. La volonté de Dieu, si on peut résumer, c'est que nous associons maintenant la foi à la prière et que quand nous prions, nous croyons que ce que nous demandons, nous l'avons déjà reçu. Que nous avancions dans la prière de la foi. Est-ce que nous voulons le faire? C'est notre part, ça, maintenant. On va prier. Merci pour ta grâce, parce que tu nous enseignes à avancer dans la foi, et à ne pas rester sur le bord, à être des hommes et des femmes de foi qui avancent, qui ne, Doute pas dans la tempête, mais qui regarde vers toi, Seigneur. Tu viens à notre secours, ta parole nous le promet. Tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Et nous voulons encore chanter tes louanges, même dans l'obscurité, même comme nous sommes comme Pierre dans la prison. Nous voulons encore bénir ton nom. Et nous voulons nous attendre à ton intervention, parce que nous croyons que ce que nous demandons, nous l'avons déjà reçu dans la foi. Si c'est selon ta volonté, nous voulons apprendre à prier selon ta volonté. Et nous voulons apprendre à développer la foi qui s'approprie les bénédictions de Dieu. Parce que ce que tu donnes, Seigneur, nous savons que ça s'accomplira, quels que soient les temps, les circonstances, quels que soient les événements contraires, même si tout nous dit le contraire, nous savons que ta promesse est certaine. Dans le nom de Jésus, Amen.